nzamba
nzambira samirana
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Vous suivez la radio Nzamba Agathe Kakawe, c'est lors de l'actualité de ce lundi, dont voici d'abord les principales articulations. L'examen d'état post-fondamental se déroule demain mardi sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 1700 élèves sont attendus pour passer l'examen. Et puis le Burundi renouvelle sa demande pour adhérer dans l'initiative internationale pour la transparence dans la gestion des industries extractives. L'OLCOM s'en réjouit. C'est peut-être l'amélioration des relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda. Une réunion entre les ministres des Affaires étrangères des pays de la sous-région s'obtient à Zanzibar pour en parler notamment. Voilà pour le sommaire. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Bienvenue encore une fois dans ce journal. Une situation inquiétante secoue la prison de Bubanza. Les détenus sont privés d'eau potable et font face à une menace de famine. Les sources dans la prison de Bubanza disent qu'un sous-officier surnommé Docor serait derrière cette décision sans l'aval de l'autorité du directeur officiel. Les précisions avec Evelyne Mukeshiman.
Selon des sources internes, un sous-officier adjudant-major nommé Dieudonné Nduwimana aurait pris le contrôle de facto l'établissement, supplantant l'autorité du directeur officiel. Ce militaire, surnommé Docor, aurait instauré un régime oppressif, privant notamment les prisonniers d'accès à l'eau potable. Les mêmes sources indiquent que l'eau coule à flot près des logements des gardiens, mais que les détenus n'y ont pas accès. Depuis deux semaines, les détenus doivent payer 1500 francs bouts par bidon, ce qui est impossible pour beaucoup d'entre eux. Les conditions sanitaires se détériorent rapidement. Les toilettes sont devenues inutilisables et une odeur nauséabonde envahit les lieux. Les prisonniers craignent l'apparition des maladies des mains sales. Face à ces conditions inhumaines, Dieudonné Nduwimana aurait déclaré aux détenus qu'ils pouvaient mourir de faim et qu'il leur était interdit de puiser de l'eau à l'extérieur. Cette situation intervient alors que le directeur de la prison avait récemment signé des autorisations de sortie pour certains détenus sous surveillance policière, une décision apparemment contrecarrée par Dieudonné Nduwimana. Les prisonniers exigent le départ immédiat de Nduwimana et menacent de s'en prendre à leurs co-détenus occupant des positions privilégiées. La rédaction de la radio Nzamba Agathe Kakawe n'a pas encore eu la version de la direction de la prison de Bubanza sur ces allégations.
Je vous le disais en titre, plus de 1700 élèves des classes terminales du lycée post-fondamental province de Muyinga sont attendus ce mardi dans quatre centres de passation de l'examen d'État leur donnant l'accès à l'enseignement supérieur. Les premières épreuves de cet examen démarrent demain mardi. Le directeur provincial de l'éducation en province Muyinga, Blaise Pascal Misago, demande aux candidats à passer la nuit de lundi à mardi à l'intérieur du centre de passation pour avoir des consignes nécessaires, mais aussi pour éviter des retards. Les précisions avec Josine Kadze.
Les préparatifs pour les élèves des dernières années des écoles post-fondamentales en province de Muyinga se sont bien déroulés en vue de l'examen d'État donnant accès à l'enseignement supérieur, indique le directeur provincial de l'enseignement, Blaise Pascal Misago. Il appelle plus de 1700 candidats à passer la nuit de ce lundi dans les internats des écoles qui abriteront les centres de passation afin d'éviter des retards éventuels et de recevoir les premières consignes.
Nous demandons aux élèves qui vont passer l'examen de se présenter la nuit du 8 dans les établissements qui apprêteront la passation du test. Cela permettra d'évaluer les différents besoins avant l'épreuve. Nous exigeons que tous les élèves, y compris les externes, dorment dans les internats pour éviter tout désordre dans l'organisation du test. Cette disposition présente également l'avantage de permettre aux élèves de s'entretenir dans la préparation de la matière pendant la période des tests.
Le directeur provincial de l'éducation demande aussi aux candidats de se conformer aux règlements scolaires en portant l'uniforme et en veillant à se couper les cheveux.
Nous demandons aux élèves de se présenter en portant les uniformes de leurs établissements respectifs et en veillant à avoir une coupe de cheveux réglementaire. Cette exigence s'appuie sur notre expérience passée concernant ces aspects. Tous les candidats doivent observer scrupuleusement le règlement scolaire, même pendant la période du test, afin que tout se déroule dans les meilleures conditions.
Ces candidats sont également instruits de ne pas causer de désordre dans les internats d'accueil. Aux parents, ils demandent d'accorder les moyens nécessaires à leurs enfants pour qu'ils puissent arriver au centre de passation sans trop de peine.
Dans le domaine de la bonne gouvernance, le gouvernement du Burundi vient de renouveler sa demande d'adhésion dans l'initiative pour la transparence dans les industries extractives étillées. Une initiative initiée en 2003 dans le but de la transparence dans la gestion des ressources minières. Gabriel Rufchili, le président de l'ELUCOM, se réjouit de cette adhésion du Burundi qui profitera beaucoup à la population. Suivez Gabriel Rufchili qui souligne quelques conditionnalités pour qu'un pays soit membre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Il l'a dit ce lundi lors d'une conférence de presse.
La première étape, c'est l'engagement de l'État. Le gouvernement du Burundi, en premier lieu, il doit faire ce qu'on appelle la déclaration publique. Montrer qu'un pays s'engage, il doit faire une déclaration publique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le gouvernement doit s'engager à collaborer avec les industries extractives qui sont agréées dans le pays, qui doivent être impliquées dans le processus de demande d'adhésion. La troisième étape, impliquer la société civile qui fait donner comme champ de bataille la promotion de la transparence dans les industries extractives. La quatrième condition, le pays doit nommer ce qu'on appelle le point focal. Le gouvernement du Burundi l'a déjà nommé. Même chez nous, ils sont venus pour nous chercher, mais il y a quand même des exigences à faire pour qu'on puisse accompagner ce processus, parce que nous avons vu que souvent les gouvernements qui n'aiment pas la transparence veulent nous associer mais veulent nous faire des épouvantails. Il est en gagnant.
Le président de l'ELUCOM veut savoir que cette adhésion du Burundi vient à point nommé parce que, constate-t-il, les frais qui proviennent des mines étaient mal gérés. Encore une fois, Gabriel Rufchili.
Il était prévu pour les ressources minières 3,5 milliards en provenance des ressources minières. Mais je dois vous dire que la réalisation a été zéro. En gros, zéro. Et on se pose la question, pourquoi nous avons un ministère de l'énergie et des mines? Pourquoi? La réalisation zéro, c'est la même chose que récupération des fonds détournés. C'est zéro. Au moment où le gouvernement nous dit qu'il y a déjà kilomètres de l'argent, mais l'argent qui est remis, il va où? C'est la même chose. Donc, pour nous, il est extrêmement urgent et important de promouvoir la gouvernance d'une manière générale, mais la gouvernance dans le secteur des industries extractives en particulier, parce que ça a été montré que une fois que le secteur des minerais est mise en avant, il pourrait générer plus de 30% du PIB du Burundi.
Inzamba.
Dans la suite de cette édition, les relations entre les pays de la sous-région vont-elles s'améliorer? C'est du moins l'espoir que donnent les rencontres dans les bars entre les ministres des Affaires étrangères du Burundi, du Rwanda et du Congo. Ces rencontres ont eu lieu en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la communauté est-africaine qui se tient sur cette île. Pierre Garungu pour plus de détails.
La réunion des ministres des Affaires étrangères de l'EAC à Zanzibar a pour but d'analyser la situation sécuritaire de la sous-région et le processus d'intégration au sein de cette organisation. Une occasion également d'avoir des rencontres bilatérales entre eux. C'est notamment le cas des ministres rwandais et burundais qui se sont entretenus en tête-à-tête dimanche dans la matinée. Albert Shingiro et Olivier Nduhungirehe se sont convenus de trouver rapidement des solutions aux problèmes entre le Burundi et le Rwanda. Les relations entre le Burundi et le Rwanda ont été rompues lorsque le gouvernement burundais a décidé unilatéralement de fermer les frontières avec son voisin du Nord sous le prétexte que celui-ci héberge et finance le groupe rebelle Red Tabara et en exigeant que les auteurs de la tentative de coup d'État de mai 2015 qui s'y sont exilés soient extradés. Le même dimanche, le ministre rwandais a rencontré la vice-ministre des Affaires étrangères congolais. Olivier Nduhungirehe et Gracia Yamba ont évoqué les différends entre leurs deux pays. Les délégations des deux pays se sont entretenues sous la facilitation de leurs homologues sud-soudanais et tanzaniens. Si le ministre rwandais a évoqué une rencontre constructive et orientée vers des solutions, allant jusqu'à indiquer que des décisions ont été prises pour la reprise des processus de Luanda et Nairobi, Gracia Yamba a, quant à elle, aussitôt réagi en parlant d'une rencontre qu'elle a qualifiée de consultative et non décisionnelle. Pour rappel, la RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23, tandis que le Rwanda reproche à la RDC d'abriter les génocidaires FDLR. Les travaux des ministres, qui ont débuté dimanche à Zanzibar, dureront 3 jours.
Parlons sport pour boucler ce journal. Le championnat national de basketball a démarré ce week-end à Bujumbura avec des clubs Runani et Dynamo qui font toujours la différence. C'est au moment où New Star a fait un très mauvais début du championnat avec 2 défaites. Les 7 athlètes et les membres de la délégation burundaise aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ont pris l'avion ce dimanche à destination de la France. Au football, Vitalo, champion du Burundi en titre, annonce avoir besoin d'un montant de 600 millions de francs burundais pour se préparer au championnat national édition 2024-2025. Le point avec mon fils Niyongez.
Au basketball, le championnat national a démarré ce week-end au département des sports. Victoire de l'équipe Dynamo samedi sur Remesha par un score de 80 à 62 points. Jimmy Kana s'est imposé sur Kern par 62 à 45 points. Défaite de New Star devant Tigaz par 78 à 71 points. Courte victoire de Runani sur des hippos avec une petite différence de 2 points, soit 58 à 56 points. Deuxième défaite de New Star dimanche face à Kern. Le score est de 74 à 61 points. Dynamo est venu à bout de Tiga par 86 points à 63. Remesha a battu les hippos par 68 à 63 points. Deuxième victoire de Runani qui a battu Jimmy Kana par 70 à 53 points. Jusqu'à présent, les clubs Runani et Dynamo restent toujours au sommet du basketball burundais. C'est au moment où New Star a brillé par un faux départ. Côté féminin, les Gazelles ont battu Gladiator par 59 points à 50. Young Sisters s'est imposé finalement sur Messager d'Ongozi par 68 à 50 points. Enfin, Runani a donné une leçon de basket à Rumuri. Score final, 82 points à 25. Au football, le club champion en titre Vitalo FC a besoin d'une enveloppe de 600 millions de francs burundais pour démarrer le championnat national édition 2024-2025. C'est ce qui est ressorti de l'Assemblée générale du club le plus populaire de Burundi, une Assemblée générale tenue ce dimanche à Bujumbura. Le rapport financier a montré que les mauves et blancs ont utilisé la saison dernière 420 millions de francs burundais, toujours au football. Les matchs qualificatifs pour la CAN 2025 au Maroc démarrent au mois de septembre. Le Burundi partage le groupe L avec le Malawi, le Sénégal et le Burkina Faso. Le stade Ntwari était toujours en chantier. Les Inamba Murugamba seront obligés d'aller livrer leur match à domicile en Tanzanie, ce qui constitue une perte financière pour le pays et le 12e joueur pour le club, c'est-à-dire les sporteurs. Bouclons par cette délégation burundaise qui a pris l'avion ce dimanche à destination de Paris pour représenter le Burundi aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette délégation est composée de 7 athlètes, dont 4 en athlétisme et 2 en natation, dont une fille qui joue au judo. Le ministre Gervais Abayero, ayant le sport dans ses attributions, a remis à cette délégation le drapeau national jeudi soir, signe qui seront nos ambassadeurs à Paris.
Fin de ce journal, merci pour votre fidélité. Au revoir.